RCF.
À Lyon, Pauline Géricault est une incontournable figure locale, une vraie Lyonnaise qui a marqué la ville mais aussi la vie de l'Église universelle. En effet, elle est à l'origine en 1822 de l'œuvre de propagation de la foi, aujourd'hui connue sous le nom d'œuvre pontificale missionnaire. Elle est également à l'origine du rosaire vivant, entre autres. Pauline Géricault est une femme étonnante à qui vous avez consacré une biographie aux éditions du Cerf. Catherine Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à la Faculté libre de sciences humaines à Lille. J'aimerais savoir ce qui vous a intéressé tout d'abord chez Pauline Géricault.
Alors, elle m'est arrivée par hasard, c'est-à-dire que un jour quelqu'un m'a dit qu'elle avait perdu son historien. Et comme elle m'intéressait comme femme, comme laïque, comme la propagation de la foi, parce que j'ai un fils qui est engagé aux missions étrangères de Paris, que la question sociale qu'elle avait abordée m'intéressait également, que le rosaire par les dominicains m'intéressait, elle avait tout ça qui m'intéressait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas.
Et vous avez été agréablement surprise, ou finalement c'est une femme plus simple qu'on ne l'imagine?
Alors c'est difficile de répondre à la question, parce que c'est tout à la fois un monument, inconnu, méconnu, en même temps certainement une femme très simple. Elle m'a beaucoup impressionnée, elle m'a beaucoup touchée. Elle a d'abord été très célèbre à cause du rosaire vivant, hein, un moment de où elle était très connue. Puis après, elle a été incomprise. Et sa vie, en fait, et sa spiritualité particulièrement, m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'elle gagne à être connue. Et je pense qu'elle peut parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui comme femme, comme laïque, comme femme de foi, comme femme engagée. Elle a tout ça. Finalement, c'est une très très belle personne.
Alors, on va essayer de la découvrir avec vous en commençant bien sûr par quelques éléments biographiques et en la situant dans son milieu familial. Il faut commencer par dire qu'elle est née donc en 1799 à Lyon.
À Lyon. C'est une Lyonnaise, une vraie Lyonnaise, j'allais dire rien qu'une Lyonnaise, puisqu'elle est née à Lyon et elle est morte à Lyon, après avoir quand même, par ses œuvres, été connue dans le monde entier. Mais donc elle naît à Lyon dans une famille de soyeux.
C'est-à-dire les artisans de la soie.
Les artisans de la soie. Son père était négociant en soie. Il a fait sa fortune dans la soie. Il venait de la campagne lyonnaise. Il est arrivé à 14 ans à Lyon pour faire fortune. Il a épousé une ouvrière en soierie. Et ensemble, ils ont eu 7 enfants.
Un mariage d'amour.
Un mariage d'amour, puisqu'en fait, si je me souviens bien, ils se sont rencontrés le dimanche de la Passion, c'est-à-dire celui qui précède les rameaux, et ils se sont mariés le jeudi saint. Ils se sont rencontrés dans un chemin de croix.
Un coup de foudre. C'est important à souligner parce que ça veut dire qu'elle grandit avec ses frères et sœurs dans un contexte familial aimant et assez stable.
Un contexte aimant, un contexte stable, oui. Un contexte travailleur, parce qu'il faut beaucoup travailler pour faire marcher le commerce de la soie. Et un contexte très pieux aussi. On allait à la messe tous les jours à 4h du matin.
Mais un contexte très chamboulé par la Révolution qui intervient et qui oblige la famille à quitter Lyon pour se mettre à l'abri, à la campagne, dans ce petit village de Soucieux-en-Jarret auquel vous avez déjà fait allusion.
Alors, c'était avant la naissance de Pauline, puisque c'était sous la Terreur en 1793, que la ville de Lyon a été très, très marquée par la Terreur. Il y a eu quelques 2000 guillotinés et fusillés. Et donc Antoine, le père de Pauline, par hasard, il se trouvait à Soucieux. Il fait venir sa famille, son épouse était enceinte, et ça les a vraisemblablement protégés pendant la période de la Révolution. Ils y sont restés jusque 1796. Et après est né Phileas, un frère que Pauline a beaucoup aimé, et avec elle a beaucoup partagé, et Pauline encore 2 ans après.
Donc Pauline, c'est pour ça que vous disiez qu'elle est née à Lyon.
Elle est la dernière de la famille.
Donc c'est une jeune bourgeoise quand même.
Très bourgeoise, très mondaine, hein, dans le monde de la soie, et qui a, pendant ses premières années, jusque vers l'âge de 15 ans, une vie très mondaine, elle est très regardée, elle est, apparemment on disait qu'elle était jolie, et elle a une vie effectivement mondaine à Lyon.
On pense à la mariée, enfin ça fait partie des préoccupations mariée, d'une jeune fille de ce milieu-là.
Le prétendant est même trouvé, et apparemment ça commence à marcher.
Et ça lui déplaît pas spécialement, elle s'interroge un peu, on y reviendra, oui. Mais bon, elle aime bien les coquetteries.
Elle aime beaucoup les coquetteries, et elle se laisse entraîner là-dedans, tout en se disant quand même que c'est peut-être pas sa voix.
La suite de l'histoire.
Catherine Masson, il faut aussi noter dans la jeunesse de Pauline un événement qui va être une première épreuve pour elle. Elle va être frappée par la maladie. Qu'est-ce qui se passe et de quelle maladie s'agit-il ?
Alors, en fait, elle fait une chute de tabouret. Vraisemblablement, elle doit attraper une infection qui se traduit par des crises de nerfs absolument épouvantables. On a dit que c'était la danse de Saint-Guy. Elle a un nom scientifique, mais je ne sais plus lequel. Mais donc, une maladie qui est sans doute une maladie rhumatismale, dont elle va avoir beaucoup de mal à se remettre. Et du coup, comme elle est pas bien, que sa maman n'est pas bien non plus, elles s'en vont toutes les deux à la campagne, à Tassin, dans une maison que le père avait achetée. Elles sont là un moment, puis finalement la maman est trop mal, elle revient à Lyon et elle meurt. Et donc Pauline reste à Tassin et elle vit là quelque chose qui nous paraît très étonnant aujourd'hui, c'est qu'elle va vivre là malade pendant plusieurs mois sans savoir que sa maman est décédée.
Elle se remet petit à petit.
Oui.
C'est une époque aussi où ses frères et sœurs se marient. Mais il se passe, alors qu'elle est âgée d'environ 17 ans, un événement qui va tout faire basculer. Elle entend un sermon dans l'église de Saint-Nizier qui se trouve dans le centre de Lyon.
Saint-Nizier, donc tout près de l'endroit où il y avait le commerce, rue du Pain.
Le commerce familial.
Voilà, le commerce familial. Et donc, elle va avec sa sœur, Sophie, la sœur aînée, qui était déjà mariée et mère de famille, et qui va écouter un sermon d'un certain abbé Wurtz qui porte sur la vanité. Et elle est là, écoutant ce sermon, habillée avec sa belle robe en soie, des fleurs sur la tête, etc. Et elle dit, ce sermon, c'est pour moi. Et donc, le sermon terminé, elle va à la sacristie trouver l'abbé, elle se confesse, et c'est véritablement le début d'un changement, de ce qu'elle appelle sa conversion, c'est-à-dire d'un changement radical de vie.
Qui se manifeste comment ?
Qui va se manifester par une grande piété, qui va se manifester d'abord physiquement, par le fait qu'elle va changer de vêtements, elle va quitter ses robes en soie pour la robe violette des ouvrières avec le bonnet blanc, elle va se lancer dans les œuvres de charité, dans son quartier, dans l'usine de son beau-frère, etc. C'est un changement de vie radical, et tout cela accompagné d'une très grande piété, souvent à l'église Saint-Nizier, au pied du Saint-Sacrement.
Ce qui pousse certaines personnes à dire que la fille Jaricot est devenue folle.
Complètement folle, lui disent certaines personnes. Ses amies mondaines, comme on disait, vont la quitter. Elle n'aura bientôt plus comme amie que les ouvrières de son quartier, qu'elle va embaucher d'ailleurs dans un groupement qu'elle va appeler les réparatrices du cœur de Jésus. La notion de réparation par rapport à la révolution, qui était très forte, on ne l'a pas dit tout à l'heure. Et donc, elle embauche ses filles, et la plupart de ses amis, quelques-unes vont la suivre, mais très très globalement non. Les amis d'avant, tout ce monde, elle rompt avec ce
rupture.
Monde-là. Il y a une rupture avec le jeune homme avec lequel elle aurait pu se marier, etc. Il y a une véritable rupture. Alors sa famille, par contre, la suit avec... Mais un peu de frein, son frère aîné, tu bois le bouillon trop chaud, Pauline, lui dit. Le père laisse faire, mais il essaie quand même de l'empêcher de vider complètement la maison, parce qu'elle donne tout ce qu'elle a, elle donnerait tout. Donc on dit, bon, doucement. Mais
on
finalement,
on la suit. Un peu. Mais tout ça au nom de quoi ?
Alors, tout cela au nom, en fait, du Christ, de Jésus, qu'elle a rencontré dans sa conversion. D'un Jésus... dans mon livre, j'ai donné comme sous-titre « J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur ». Et en fait, elle le dit souvent en disant « J'ai tout appris au pied de la croix, j'ai tout appris au pied de l'autel et j'ai tout appris au pied des pauvres. J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur ». Et je pense que l'un des arguments essentiels de sa vie, c'est sa vie au pied de la croix. Et dès cette conversion, elle va un jour à Saint-Nizier, elle entend la voix de Jésus qui lui parle, elle le dit, elle va vérifier ça avec son maître spirituel pour être sûre qu'elle n'est pas dans l'illusion. Elle entend Jésus qui lui dit « Je suis Jésus qui te parle » et il lui demande si elle veut bien souffrir et être victime avec lui. Et ça va être le leitmotiv de toute sa vie à partir de ce moment-là.
Donc ça, ce sont des notions avec lesquelles on a un peu de mal aujourd'hui. Hein. Souffrir et être victime,
oui.
Par choix,
alors,
par acceptation.
Non, par configuration au Christ, on va dire. Je pense que c'est mieux de le dire comme ça. Parce que c'est vrai, moi ça m'avait fait peur un peu cet aspect doloriste de Pauline quand je l'ai abordé. En fait, elle n'est pas doloriste. Elle s'offre, elle donne sa vie et elle donne sa vie comme le Christ l'a donnée. Dans la configuration au Christ sur la croix.
En restant laïque.
En restant laïque.
Alors ça, c'est quand même aussi surprenant. D'ailleurs, est-ce que pour l'époque, ça l'est ? Ou bien ça existe déjà ?
Complètement surprenant pour l'époque. Alors, il y a eu à l'époque des femmes laïques qui se sont engagées, qui ont mené des actions très importantes, etc. Ça existe, elle n'est pas seule du genre. Ce qui est différent chez Pauline, c'est qu'elle va le rester. Ses œuvres, elle ne va rien transformer. Les réparatrices, par exemple, elle ne va pas en faire une congrégation religieuse. Elle va rester laïque. Elle a eu beaucoup d'hésitations. Elle avait une espèce de tension très forte entre ça. Et son directeur spirituel, l'abbé Würtz, estime qu'elle a une vocation contemplative. Donc, il pousse dans ce sens-là. Et elle dit non. Je suis faite pour aimer et agir. Aimer et agir au pied de la croix, toujours avec le Christ. Et donc, il y a une sorte de tension dans sa vie entre la vie active et la vie contemplative qu'elle résoudra dans sa vie, comme elle disait, entre guillemets, cloîtrée dans le monde. Donc, elle ne sera jamais religieuse. Elle va essayer de fonder une petite communauté qu'elle n'arrivera pas à fonder, mais pas de religieuse de toute façon. L'idée, c'est d'être dans le monde, au service du monde et de l'Église avec le Christ.
Merci Catherine Masson, à demain.